Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix pour vous informer. En titre de ce 7 heures à la Chambre haute du Parlement, que vous soyez sénateur élu ou sénateur nommé, vous pouvez briguer le poste de président de cette institution, nous apprend le juriste Geoffroy Julien Kouao qui nous donnera les détails en début d'édition. Et puis dans ce journal, nous parlerons de troubles de santé mentale avec le Programme national de la santé mentale qui recommande d'arrêter de critiquer les personnes atteintes de cette pathologie tout en exhortant celles-ci à se déclarer afin de se faire suivre. Dans l'actualité, hors de nos frontières au Niger, les forces françaises quittent leur base pour le Tchad dans un premier convoi terrestre sous escorte locale. Pour la revue Les Unes de vos quotidiens, Francis Cassi nous rejoindra après son tour d'horizon. Et après la revue Les Titres, nous aurons l'invité de la rédaction, Michael Decoq, chef de l'unité de recherche et d'évaluation au service des principes et droits fondamentaux au travail à l'OIT à Genève. Avec Junior Cardin, elle parlera de l'importance de la collecte et de l'analyse de données sur le travail des enfants en Afrique. Ce sera en toute fin de journal. Madame, Monsieur, bonjour. Entamons cette édition par la vie de nos institutions, notamment avec le Sénat ivoirien, dont le nouveau président pourrait être connu demain, jeudi 12 octobre, date retenue pour la séance inaugurale de la deuxième législature. Et le principal point à l'ordre du jour sera l'élection du successeur de Jeannot Ahoussi Kouadio, le président sortant. Concernant justement cette élection, sachez que tous les sénateurs, qu'ils soient élus ou qu'ils soient nommés, peuvent faire acte de candidature pour être président du Sénat. Tel est en tout cas l'éclairage du juriste Geoffroy Julien Kouao, par ailleurs politologue.
Oui, il faut interroger surtout le règlement intérieur du Sénat. Et ce règlement est d'une extrême clarté. Et les sénateurs élus et les sénateurs non élus peuvent être candidats à la présidence du Sénat. Autrement dit, pour être candidat à la présidence du Sénat, il faut tout simplement avoir la qualité de sénateur. Peu importe la nature du mode de désignation, que ce soit un sénateur élu ou un sénateur nommé, il peut valablement candidater pour la présidence du Sénat. Évidemment, il appartient à ses collègues de porter leur choix sur sa personne pour que cette personne-là devienne présidente du Sénat.
Le jeudi prochain sera probablement connu le président du Sénat de Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous cette élection?
Oui, comme toute élection, elle sera discutée, mais selon toute vraisemblance, la présidence reviendra à un cadre du RHDP qui a la majorité absolue au Sénat. Maintenant, est-ce que ce sera une dame ou un monsieur? J'avoue que, en tant qu'analyste politique, ma préférence va vers une dame pour qu'on ait quand même la promotion du genre, surtout à la tête d'une des plus importantes institutions de notre pays.
Nous écoutions le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao sur l'élection du successeur de l'ex-président du Sénat, Jeannot Ahoussi Kouadio. Et nous le savons tous, le RHDP est majoritaire au Sénat et a pratiquement raflé toutes les régions et communes après les dernières élections locales. Et en dépit de cette large victoire écrasante, le parti au pouvoir a décidé de sanctionner plus de 330 de ses membres qui ont outrepassé les consignes du parti en se présentant à ses échéances contre les candidats investis. Suivons donc à cet effet les explications de Doumbia Brahima, le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections au RHDP sur ces sanctions.
Quand on appartient à une organisation politique comme le RHDP, on est régi par des textes et on est astreint au respect de ces textes. Il y a une disposition des statuts règlements intérieurs du RHDP qui définit la question de la discipline et des actions que les militants doivent s'abstenir de poser. Parmi ces actions, il est considéré comme une faute grave le fait de se présenter candidat contre les candidats investis par le parti. Malgré tout cela, certains cadres sont allés aux élections, soit en tant que tête de liste contre les candidats du RHDP ou sur des listes concurrentes aux listes du RHDP, ce qui, au regard des textes du RHDP, constitue des fautes graves.
Quelles sont donc la nature des sanctions?
Il y a la déchéance des fonctions occupées. Ensuite, si vous appartenez à une instance centrale du parti, vous êtes exclu de cette instance. Donc, tous ceux qui ont été convaincus donc d'indiscipline sont exclus de ces instances. Et puis, il y a aussi le blâme donc pour les militants qui n'ont pas de responsabilité particulière dans le parti. Et puis, à côté de ça, il y a aussi la suspension des activités du parti pour une année.
Doumbia Brahima, que vous venez d'entendre, est le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections au RHDP. Il a été joint par Gapienan Ouattara. Prenons la direction à présent de l'ouest du pays, précisément Gouin-Pleu, village situé à 12 km de Mans, où des soubresauts liés à un conflit foncier naissant entre autochtones Yakuba et halogènes perturbent la quiétude des populations. Pour éviter l'affrontement communautaire, un cadre natif de la localité a rencontré les protagonistes afin de trouver un dénouement pacifique à cette situation. Plus de détails dans cette correspondance de Stéphane Adams.
La vente abusive et non réglementée du patrimoine forestier continue toujours d'exister dans certains villages de la région du Tonkpi. C'est le constat fait à Gouin-Pleu par Gueux Mathurin, cadre et natif de la localité, qui a circonscrit un grave conflit foncier naissant entre autochtones Yakuba du deux villages et certains de leurs frères halogènes.
C'est devenu très tôt s'attaquer à ce problème pour ne pas que le pire arrive dans la région. La première des choses, c'est de dire à nos parents d'arrêter de vendre leur forêt. Mes frères burkinabés m'ont expliqué comment ils sont installés, qui les a installés. J'ai demandé à nos frères que celui qui a vendu, c'est pas sa terre, qu'il libère. Aux frères burkinabé aussi, je souhaiterais que, quand ils veulent payer quelque chose, qu'ils ne le fassent pas avec les enfants, mais que le chef du village, le président des jeunes, le chef de terre, que tout cela, ils soient au courant, pour ne pas qu'à chaque fois, ça débouche sur des palabres.
Le porte-parole de la communauté burkinabé salue cette approche pacifique en ces termes.
Première des choses, c'est pour leur dire seulement que M. Gueux Mathurin, qui est l'un des fils, le neveu de ce village, est venu éteindre le feu. Sinon, nous, on était là, on ne savait pas quoi faire. Il a tout dit. Que d'abord, dans un village, dans un campement, il y a un chef, il y a chef de terre, il y a président des jeunes. En conséquence, on doit s'atteler à venir au village et croiser les parents. Je suis venu avec mon staff. Ils sont tous venus pour écouter chacun dans son village, dans son campement. Le message sera passé.
Les campagnes incessantes de sensibilisation à l'endroit des populations rurales se poursuivent pour le maintien d'un climat apaisé. Stéphane Adams, de retour de Gouin-Pleu, Radio de la paix.
Un mot de santé dans notre édition, et c'est pour faire cas de psychologie avec le Programme national de la santé mentale, PNSM, qui recommande qu'on cesse de critiquer les personnes ayant un problème de santé mentale et que celles-ci, à leur tour, en parlent plutôt que de le cacher afin qu'on puisse les prendre en charge. C'était à l'occasion de la célébration pour la Côte d'Ivoire hier mardi, 10 octobre à Abidjan, de la Journée mondiale de la santé mentale. Francis Cassie y était, son compte rendu.
Outre des sujets développés par des techniciens des problèmes de santé mentale, le témoignage sur le sujet à cette cérémonie du suspect 95, artiste-chanteur, a été un autre temps fort.
Retirer ce tabou qu'il y a autour de la dépression en Afrique. Moi, je considère une dépression comme un palu. J'ai pas honte de dire que je suis passé par une dépression parce que j'aurais pas honte de dire que je viens de passer par un palu. Et je pense que c'est le fait de ne pas en parler ou de cacher ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer efficacement sur le sujet.
Une dame aussi, au nombre des participants, a accepté de nous parler.
Magouri Liko, maman de Chris Désiré, âgée de 14 ans, autiste et présidente de l'association Parents au cœur bleu.
Mais est-ce que l'autisme fait partie des problèmes de santé mentale?
Oui, l'autisme fait partie des problèmes de santé mentale. Les troubles mentaux, que les gens qui en souffrent ne soient plus stigmatisés pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour eux.
Ensuite, docteur Akissi Niapa Estelle, médecin du travail au Programme national de la santé mentale, a fait cette précision.
Pour cette journée, ce qu'il faudrait clarifier dans la tête des populations, c'est que la santé mentale, ce n'est pas les fous. La santé mentale, c'est un état de bien-être. Et lorsqu'on n'est pas bien dans sa tête, on se sent mal. Toute la population devrait prendre conscience de ça et tout faire pour avoir une très bonne santé mentale. Car la santé mentale sont traitées tout comme la santé physique.
Parlons de la santé mentale à tous les âges et à tous les secteurs d'activité. a été le thème national ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale, d'après le Programme national de la santé mentale.
Toujours sur le volet de la santé mentale, la deuxième édition du forum Santé et mieux-être au travail s'est tenue récemment à Abidjan sous le thème La santé psychologique au travail, quels enjeux pour l'entreprise ? Il s'agissait à ce rendez-vous d'attirer l'attention sur la nécessité de promouvoir la santé mentale dans le management des entreprises. Professeur Kwa Assément Médard, représentant le ministère de la Santé, nous situe ici sur les enjeux de ce forum.
Le ministère en charge de la Santé attend deux choses de ce forum. Premier élément, c'est de recueillir des bonnes pratiques en matière de santé mentale et prévention du suicide. Deuxième élément, c'est de recueillir les besoins de renforcement des capacités, les besoins en matière de développement de ressources ou bien de lignes directrices qui vont permettre de faciliter les processus de recouvrement des prestations de santé mentale au travail. Parce que c'est l'une des problématiques. Le constat est amer, mais il est réel. Tout ce qui concerne les prestations en santé mentale au travail ne sont pas encore couvertes par les assurances. Donc, ça réduit l'accès à ces services qui sont pourtant importants pour rendre performant, pour la qualité des interventions, ou bien le mieux-être au travail.
Nous écoutions professeur Kwa Assément Médard, représentant du ministère de la Santé. Il était au micro de Mata Touré. Dans l'actualité sur le continent, les soldats français ont quitté leur base au Niger hier mardi, dans un premier convoi terrestre sous escorte locale en direction du Tchad, a indiqué le régime militaire au pouvoir à Niamey. Et outre ce départ par voie terrestre, 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, 2 pour le départ de 97 éléments des forces spéciales françaises et 1 consacré à la logistique. Le régime qui avait assuré vouloir que ce retrait se fasse en toute sécurité, précise néanmoins que le désengagement se poursuivra conformément au calendrier arrêté d'un commun accord par les deux parties. Et comme nous vous le disions en titre, Francis Cassis s'est chargé aujourd'hui de parcourir les unes de vos quotidiens parus ce mercredi. Nous l'accueillons pour sa revue des titres. Bonjour Francis.
Bonjour Linda, bonjour à tous. La main lourde du RHDP contre ces cadres qui ont osé aller en candidat indépendant lors des récentes élections municipales et régionales. C'est par ce sujet que nous ouvrons notre revue des titres des journaux de ce mercredi. Sanctions contre les indisciplinés du parti. RHDP, la fermeté pour stopper le désordre. Titre à ce propos, Le Patriote. D'où cette interrogation du RHDP News. Candidat indépendant, 1 an de sanctions, les indépendants vont-ils demander pardon ? Mais sur le même sujet, on a un autre son de cloche avec le sursaut qui dit « RHDP, sanctions contre les indépendants, Kone Kafana et Bakongo se sont trompés ». La situation au PDC-IRDA, après le décès de son emblématique et charismatique président Enrico Namidié, est un autre sujet à la une de vos journaux de ce jour. 2 mois après le décès du président Bédié, le PDC-IRDA est en train de réussir là où tous annonçaient sa mort. S'exclame à ce sujet le nouveau réveil. Mais attention, pas d'euphorie à ce stade, semble lui dire le temps, citant un cadre de ce parti dans cette manchette-ci. Après la mort de Bédié, un baron du PDCI se lâche. Des cadres veulent vendre le PDCI à Ouattara. Le nouveau maire, le Yopougon, officiellement entré en fonction hier, est une autre actualité à la une de vos journaux, mais avec un regard croisé de ces derniers. Après la confirmation de sa victoire du 2 septembre 2023, Adama Dick Togo installé à la tête de la plus grande commune du pays, écrit l'avenir sur lequel renchérit ainsi le patriote. Passation de charge à la mairie de Yopougon, Kafana Kone remet les dossiers à Adama Dick Togo. Mais l'événement est vu sous un autre angle par la voix originale qui cite un des candidats ayant contesté cette victoire de Dick Togo devant le Conseil d'État. Michel Gbagbo catégorique. Il ne s'agit pas d'une élection, mais d'une nomination. Nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats. Et puis, concernant la Chambre haute du Parlement de Côte d'Ivoire, l'on peut lire ceci sur Fraternité Matin. Sénat, ouverture de la deuxième législature demain. Les échos de Yamoussoukro. Enfin, par rapport au corps préfectoral. Le même Fraternité Matin rapporte préfet, secrétaire généraux et sous-préfet la liste complète des nominations. D'où cette indication de Le Matin. Préfet de région, préfet de département, SG de préfecture et sous-préfet Alassane Ouattara signe plusieurs décrets de nomination. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassi pour cette revue des titres. Prochain rendez-vous avec vous, ce sera dans l'édition de 8h. À présent, notre invité de la rédaction est Michael Decoq. Elle est chef de l'unité de recherche et d'évaluation au service des principes et droits fondamentaux au travail au département de la gouvernance et du tripartisme à l'OIT à Genève. Avec Junior Cardin, elle évoquera l'importance de la collecte et de l'analyse de données sur le travail des enfants en Afrique, ce qui vient de faire l'objet d'un atelier à Abidjan qui a réuni fin septembre les experts venus de toutes les régions d'Afrique. Un entretien à suivre maintenant.
Michael Decoq, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes la chef de l'unité de recherche et d'évaluation, service des principes et droits fondamentaux au travail, département de la gouvernance et du tripartisme à l'OIT. Et l'OIT donc qui organise cet atelier régional Afrique sur la collecte et l'analyse de données sur le travail des enfants. Que disent les dernières estimations mondiales sur le travail des enfants en Afrique et dans le monde ?
Alors je crois que vous les avez entendues, elles n'étaient pas très bonnes. Nous les faisons tous les 4 ans depuis 20 ans. Ça permet de voir l'évolution de la situation, de voir où il y a des problèmes. Malheureusement, lors des dernières, pour la première fois, alors qu'on avait vu d'année en année depuis 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, toujours la prévalence descendait. Et là, pour la première fois, on a vu une petite remontée et ça a été des mauvaises nouvelles, en particulier pour l'Afrique, où on essaye de comprendre ce qui se passe, d'où l'intérêt de cet atelier où tous les pays vont pouvoir, chacun de retour chez soi, générer leurs propres statistiques du travail des enfants.
Justement, en parlant de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, les données sont si alarmantes, la situation, je veux dire.
Alors, alarmante, je ne sais pas. Ce qui est important, ce que l'on sait de notre expérience depuis des décennies, c'est que pour pouvoir attaquer un problème, pour pouvoir s'y attaquer, le combattre efficacement, il faut le comprendre. D'où notre invitation à tous les pays à dire, avec la compétence qu'il y a dans tous ces pays, en particulier en Côte d'Ivoire, avec un bureau de statistiques qui est fort, eh bien, générer des données, et elles donneront les informations qui permettront d'agir le plus efficacement possible.
Et en quoi donc cet atelier peut-il apporter quelque chose dans la lutte contre ce fléau, le travail des enfants ?
Eh bien, justement, il va donner les outils très précis, on va aller très en détail, hein, c'est un atelier vraiment technique, à tous ces instituts de statistiques qui sont présents, on a 24 pays présents, c'est beaucoup, 24 pays, pour qu'ils puissent de retour dans leur pays décider de la forme la plus adéquate, la plus appropriée au pays, pour collecter ces données et donner des informations à leur ministère et à leur politique.
D'accord. Mais collecter des données est une chose et traduire ces données en moyen de lutte pour permettre aux décideurs d'agir en est une autre.
Alors justement, vous allez voir dans le cours de la semaine, on va passer d'une définition qui est très générale, la définition mondiale, aux définitions nationales. Quelle est dans mon pays la définition du travail des enfants ? Et puis après, comment faire une enquête qui va donner les informations très précises. Dans mon pays, c'est dans telle province où c'est peut-être les petites filles ou les garçons de 14 ans ou les petites filles de moins de 11 ans, je ne sais pas. Dans chaque pays, on va trouver les informations sur les groupes qui sont le plus à risque. Et quand on a cette information, alors les ressources du pays, elles peuvent être dirigées directement sur ces enfants qui sont les victimes du travail des enfants.
Et donc, ce projet de travail préalable, collecte et analyse des données, quels sont les appuis dont bénéficie donc ce projet ? Il y a des pays qui vous aident ?
Oui, alors ce projet, il est financé, on l'a dit, par le département du travail américain. Il y a également une partie qui vient d'un projet Axel, on l'a parlé, Axel 2, qui est financé par les Pays-Bas. De nombreux pays dans la communauté internationale s'engagent ensemble. Ça fait partie des objectifs du développement durable, hein, de travailler en partenariat pour avoir des données partout dans le monde.
Dernière préoccupation, tous les pays, hein, tout à l'heure à la présentation, on s'est rendu compte que tous les pays invités à cet atelier ne sont pas au même
même niveau d'alerte et d'engagement dans le combat. Comment vous expliquez cela ?
Bon, c'est l'histoire de chaque pays, ce n'est pas grave, l'important c'est d'avancer. L'important c'est qu'on avance ensemble, on part pas tous du même point, comme vous le dites, on l'a entendu, mais l'important c'est que personne ne reste au bord du chemin, que tout le monde se mette en route.
Quel message alors à tous les pays qui sont présents ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, donc dans le combat pour la lutte contre le travail des enfants ?
Eh bien, générons des bonnes données, des données fiables, qui seront celles du pays, ce seront des statistiques nationales, générons ces informations, le BIT est à votre côté pour apporter l'appui technique si besoin, et puis cela nous donnera comme une feuille de route à partir de ces données pour voir notre objectif qui est un monde sans travail des enfants.
Alors, Michael de Coq, merci à vous.
Je vous remercie.
Vous suiviez l'invité de la rédaction, Michael de Coq. Aujourd'hui, elle est chef de l'unité de recherche et d'évaluation au service des principes et droits fondamentaux au travail au département de la gouvernance et du tripartisme à l'OIT, et elle répondait aux questions de Junior Cardin, un entretien qui met fin à ce journal dont voici le rappel des titres. À la Chambre du Parlement, que vous soyez sénateur élu ou sénateur nommé, vous pouvez briguer le poste de président de cette institution, nous a appris le juriste Geoffroy Julien Kouaou, qui se référait au règlement intérieur de cette institution. Et puis dans ce journal, nous parlions également des troubles mentaux avec le Programme national de la santé mentale qui recommande d'arrêter de critiquer les personnes atteintes de cette pathologie tout en exhortant celles-ci à se déclarer afin de se faire suivre. C'était à l'occasion de la célébration hier mardi à Abidjan de la Journée mondiale de la santé mentale. Et puis au Niger, pour terminer, les forces françaises quittent leur base pour le Tchad dans un premier convoi terrestre sous escorte locale. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.